Que le nom du Seigneur soit béni. Je connais une femme qui a dû chanter ce cantique. Vous allez comprendre. Nous allons faire quatre lectures. La première dans le psaume 37, au verset 18. Psaume 37, verset 18. Vous allez bien, mes frères et sœurs ? Oui, comme le disait Lucas, comme le disait Janson, quelle grâce d'être dans sa maison. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Vous le croyez, ça ? Les hommes intègres sont rassasiés au jour de la famine. Psaume 33, versets 18 et 19. Là, il n'est pas parlé des intègres, il est parlé de ceux qui le craignent. Psaume 33, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Il y a ceux qui sont rassasiés au jour de la famine et ceux-là ici qui sont bénis au milieu de la famine. La famine, c'est un problème. Vous savez qu'il y aura en divers lieux sur la terre des famines. Il y a des famines au niveau matériel, mais il y a des famines spirituelles. Hier, je discutais avec une dame qui venait d'une église. Elle me dit, dans mon église, spirituellement, on est tous malades. Ça fait peine à entendre ça. Dans mon église, on est tous malades. C'est une famine spirituelle qui envahit le corps de Christ lorsqu'il n'y a pas cette vie qu'il devrait y avoir. Ça s'est passé du temps d'Israël. Regardez ce que Jésus dit dans Luc au chapitre 4. C'est un texte qui a rendu furieux certaines personnes. Luc chapitre 4, verset 25. Il y a des famines, il y en a eu. Il y en aura d'autres. Si vous avez lu l'Apocalypse, il est parlé de famine matérielle. Mais nous allons voir ce soir, quand les gens regardent à Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Luc chapitre 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Regardez leur réaction, ils auraient dû se réjouir de voir la bonté de Dieu, la justice de Dieu. Ils auraient dû se réjouir, oui ou non? Vous avez vu comment ils ont réagi? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Le Seigneur Jésus est en train de leur dire, voyez, le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, n'a pas connu la bénédiction de Dieu. Et Dieu a béni des étrangers. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et ils étaient furieux parce que Jésus était en train de leur révéler leur misère, leur froideur, non pas pour les accabler, non pas pour les juger, mais le Seigneur était en train de leur montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme et que si on ne sait pas saisir la bénédiction, si on ne sait pas saisir la grâce de Dieu, on passera à côté, alors que des étrangers ont été bénis par la puissance du Seigneur. Dieu sait qu'il doit bénir. Cette histoire à laquelle Jésus fait allusion, elle s'est passée dans la Bible, hein, dans 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. On va lire cette histoire, elle est extraordinaire. Et croyez-moi, si vous êtes venu avec ce cœur désireux d'expérimenter la grâce de Dieu, c'est ce qui vous attend. Il y a des instructions, il vous faut les saisir. Peut-être noter 3 ou 4 mots qui vous permettront de reproduire cette foi, parce qu'on peut imiter. Est-ce que c'est écrit qu'on peut imiter la foi et la persévérance de ceux qui obtiennent les promesses? Oui, c'est écrit. 1 Roi chapitre 17. Dans ce temps de misère, nous avons un Dieu fidèle et puissant. 1 Roi 17, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, donc à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Écoutez bien. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et vous pouvez tous dire Amen. Parce que ce Dieu qui s'est occupé de cette femme il y a des milliers d'années a bien l'intention de s'occuper de chacun d'entre vous. À condition que vous ne vous comportiez pas comme ces religieux du temps de Jésus qui sont passés à côté de la bénédiction, qui n'ont pas eu la grâce de faire la même expérience. Est-ce qu'ils auraient pu la faire, cette expérience? Bien sûr, vous savez que nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. C'est écrit qu'on peut se priver, qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Et vous avez lu avec moi dans les Proverbes que les hommes intègres, ils seront rassasiés au jour de la famine. Et que ce soit spirituellement, ou que ce soit matériellement, ces choses se présentent. Je faisais allusion à cette dame qui me disait hier qu'elle était dans une profonde peine de voir que toute l'église était malade. Ça s'appelle la famine spirituelle. Et nous, ce que nous voulons, c'est laisser le Seigneur s'approcher de nous et nous parler et nous dire ce qu'il a à l'intention de nous dire pour pouvoir faire de nouvelles expériences. Oui, Dieu va bénir cette femme. Il l'a connaît de la même manière qu'il connaît tous les habitants du monde. Dieu connaît tout le monde. Sa puissance lui permet de connaître tout le monde. Il connaît tous les gens qui sont sur la terre, tous ceux qui vont encore renaître, tous ceux qui sont au ciel. Est-ce qu'il connaît le nom des anges, en fait? Il y a des myriades d'anges. Est-ce que le Seigneur les connaît à chacun? Il est même écrit, je ne sais pas si vous le croyez, qu'il a donné un nom à toutes les étoiles. Ça fait quand même du travail, ça, non? Et il a donné un nom à toutes les étoiles. Nous, on en connaît quelques-unes, on connaît quelques constellations comme ça, on est content. Mais Dieu, il connaît le nom de toutes les étoiles, il est tout-puissant. Et il sait quand quelqu'un va s'attendre à lui. Cette femme va faire une expérience extraordinaire, mais je me doute qu'elle a dû prier dans son cœur. Peut-être elle a dû prier des semaines, peut-être elle a prié des années. Cette famine avait duré 3 ans et demi, c'était pas la fin de la famine. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que cette femme, elle croyait que Dieu était tout-puissant. Alors c'est vrai que Dieu va l'éprouver. C'est vrai que Dieu va envoyer cet homme de Dieu vers elle et elle va de suite accepter ce que cet homme va lui dire. Est-ce que nous acceptons ce que Dieu nous dit? Vous avez vu de suite, donne-moi un peu d'eau, je te prie, dans un vase. Cette femme, elle était en train d'envisager la mort parce qu'elle n'avait plus rien. Et pourtant, on voit une femme résignée, mais elle n'est pas amère. Elle est dans une situation très, très, très délicate, mais on la perçoit dans la paix. Et elle va faire ce que Élie va lui demander. Et je crois que malgré le fait que nous puissions rencontrer des moments difficiles, Dieu peut nous éprouver et Dieu peut nous demander certaines choses. Et que même si les gens autour de nous sont dans des situations difficiles, Dieu peut utiliser quelqu'un autour de vous pour tester votre obéissance et votre foi. Car nous voyons une femme dans un esprit d'obéissance, vraiment. On le voit, ce qui ressort dans ce texte, c'est l'obéissance de cette femme. Cette femme, elle dit à Élie, à la deuxième sollicitation, à savoir qu'il maintenant il lui demande du pain, elle aurait pu dire, écoute, tu me demandes de l'eau, maintenant tu me demandes à manger, écoute, bon, c'est bon. Non, comment réagiraient les gens aujourd'hui? Elle a rien. Comment réagiraient les gens aujourd'hui? Écoute, c'est bon, mais tu passes ton chemin et c'est bon. Il n'y en a pas qui feraient comme ça aujourd'hui? Sérieusement? Je peux vous dire que même des chrétiens, et beaucoup de chrétiens, réagiraient de cette façon-là, croyez-moi. Cette femme, non, elle est résignée, mais je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si vous étiez résignés parce que des circonstances sont difficiles, parce que vous dites, eh bien, écoute, de toute façon, il faut attendre l'enlèvement de l'Église, c'est une façon d'être résigné, il faut attendre la mort, voilà, eh bien, écoutez, c'est comme ça. Les temps sont de plus en plus difficiles. Alors, eh bien, résignons-nous, attendons patiemment eh bien, que Jésus nous reprenne, que l'Église soit enlevée. On verra bien comment ça va se passer. Écoutez-moi, ne soyez pas résignés. La vie, la mort, tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Ne soyez pas résignés. Il y a des gens qui pensent à la mort. Il y a des chrétiens qui, des fois, aimeraient mourir. Vous rappelez Élie ? Rappelez Élie ? Il voulait mourir, il en avait assez. Il était fatigué, il demande la mort, et puis en plein de compte, il ne va pas mourir, lui. Moi, j'aime parfois l'humour du Seigneur. Un de ceux qui a demandé la mort dans la Bible, eh bien, il n'est jamais passé par les funérailles. Oui ou non? Dieu aurait pu lui dire, écoute, Élie, si tu savais comment ça va se passer pour toi, il n'aurait pas pu lui dire, le Seigneur, écoute, Élie, c'est vraiment pas une bonne prière, parce que tu fais partie des deux seuls qui ne connaîtront pas la mort. C'est presque marrant, je veux dire. Voyez, ne vous résignez pas. Peut-être que vous êtes âgé et que vous dites, ah ça y est, moi j'ai fini ma vie. Peut-être que, bon, eh bien, place aux jeunes. Je pense souvent à Moïse qui, de 40 ans à 80 ans, a été éprouvé, certainement brisé. Et ce n'est qu'à 80 ans que Dieu va utiliser cet homme pour en faire un des hommes les plus extraordinaires de l'histoire, que vous le vouliez ou non. Et cet après-midi, justement, je pensais à Jochebed. Jochebed, c'est sa maman. Cette maman qui est tombée enceinte alors que l'édit du roi était tombé, il fallait noyer tous les enfants. C'était terrible, ça. Vous savez, il y a eu des périodes dans l'histoire, mais terrible, vous vous rendez compte? Et cette femme, elle a vu que cet enfant était beau. Bien sûr que pour toutes les mamans, tout leur enfant, c'est le plus beau. Mais il y avait quelque chose de particulier dans la vie de Moïse. Et elle l'a caché pendant plusieurs mois. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Je pensais à cette femme. Dans une période où on tuait les enfants. Elle a enfanté trois enfants. Vous savez, il y a eu Myriam, il y a eu Aaron. Et Moïse, quand on voit Myriam, qui a été la première prophétesse en Israël, Aaron, qui a été le premier grand sacrificateur en Israël, Moïse, qui a été le plus grand libérateur d'un peuple, quelle femme! Quelle femme, dans un temps de détresse, dans un temps de misère, où on égorgeait les enfants dans les rigoles, où on les noyait dans le Nil, cette femme, elle a fait une expérience extraordinaire. Elle ne s'est pas laissée résigner. Et vous croyez, on en parle encore aujourd'hui de cette femme, parce que Dieu l'a bénie à cause de sa foi. Cette femme, elle était là, ne soyez pas résignés. Ne dites pas, je vais mourir, il faut que j'attende la mort. Non, Dieu a des bénédictions. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ne dites pas, oh, moi c'est fini, j'en ai marre, de toute façon c'est comme ça. Non, le Seigneur, il n'a pas fini. Lorsqu'il y a la foi dans le cœur d'un homme, il y a toujours des solutions. Et là, nous en avons la preuve. En plus, c'est presque l'humour de Dieu, une fois de plus. Vous voyez, c'est à Sidon, c'est dans le Liban actuel. Ça ne s'est pas passé en Israël. Ça ne s'est pas passé dans le peuple de Dieu. Ça s'est passé avec une femme étrangère qui, certainement, vu son attitude, croyait que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Est-ce que vous le croyez que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien? Vous le croyez que Dieu a le pouvoir de vous bénir encore? Même s'il y a de la famine, vous avez vu la crise, n'écoutez pas. Si vous n'êtes pas capable de supporter les speakers, les économistes, les journalistes ou les députés qui parlent de la crise, mais ne les écoutez pas. Si ça doit vous perturber, mais ne les écoutez pas. Franchement, vous ne mangez pas quelque chose qui vous fait mal. Hein? Ça vous viendrait à l'idée de manger un aliment, il n'y a pas des choses que vous ne supportez pas? Et il y a des chrétiens, ils écoutent, oh, j'ai entendu ça, ils ont dit que, oh, pour ci, ou pour ça, ou pour la retraite, ou pour ça. Mais dites-moi, c'est qui votre père? C'est le Premier ministre ou c'est le grand Dieu de l'univers, votre père? Est-ce que vous croyez qu'au-delà de toutes les aides financières, au-delà de toutes les caisses, etc., est-ce que vous croyez que Dieu est au-dessus de tout? Eh bien, cette femme, je suis sûr qu'elle le croyait. Alors ne soyez pas résignés, ne demandez pas la mort, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de demander à mourir. Le Seigneur sait très bien quand est-ce qu'il va vous reprendre. Et peut-être que vous aurez le même problème qu'Élie. Vous n'aurez même pas besoin de passer par la mort, que Dieu vous enlèvera. Quand je parle de problème, c'était entre guillemets, bien entendu. Est-ce que c'est possible? Ne soyez pas résignés. Ne soyez pas résignés. Sachez que vous avez un Dieu qui vous aime, un Dieu qui sait ce qu'il va faire, un Dieu qui peut vous rencontrer ce soir dans ce lieu, un Dieu qui peut intervenir au-delà de ce que vous pouvez même penser. Mais il y a quelques conseils que j'aimerais vous laisser à un petit quart d'heure, parce que ce sont les mêmes conseils que Dieu donne aujourd'hui aux hommes pour que nous expérimentions cette affaire extraordinaire quand Dieu va dire à cette femme, écoute, t'as plus rien, mais tu te rends compte, lui, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et vous savez que dans l'Apocalypse, quand il parle des premiers fléaux, il dit « tu ne toucheras pas à l'huile et au vin ». Et ça parle des chrétiens qui sont restés fidèles, attachés au Saint-Esprit, attachés à Jésus-Christ, car le vin nous parle de la joie et l'huile nous parle du Saint-Esprit. Êtes-vous attaché au Saint-Esprit? Êtes-vous attaché à Jésus-Christ? Avez-vous la joie du salut? Est-ce que vous avez la joie du salut? Eh bien, c'est bien. Vous pouvez vous attendre à vivre la même expérience que cette femme. Il y a des choses simples dans l'Écriture. Le problème avec Dieu, le vrai problème, et là c'est pas entre guillemets, c'est que c'est trop simple. Et que les gens sont compliqués. Le Seigneur va dire à cette femme, trois mots. Ne crains pas. Vous avez vu au verset 13? Voilà. Cette femme, elle est résignée. Là, le premier mot que Dieu lui dit, c'est ne crains pas. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de craindre. C'est un commandement. Vous pouvez l'interpréter comme une promesse. Vous allez voir sur un petit signet biblique, voyez, ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas une promesse, c'est d'abord un commandement. C'est une attitude de cœur que Dieu nous demande d'avoir. Ne craignez pas. Ça revient continuellement dans la parole de Dieu. Je pense à ce texte dans Isaïe quand il a dit « mais bannis l'inquiétude car tu n'as rien n'a crainte et bannit la frayeur parce qu'elle n'approchera pas de toi. » S'il y a bien une chose que vous devez commencer à faire, c'est à bannir la crainte de votre cœur. Bannissez la crainte, car vous n'avez rien à craindre. Bannissez l'inquiétude. Bannir, ça veut dire qu'on expulse. Il y a 200 ans en France, on expulsait à Cayenne les prisonniers. Ils étaient bannis de la France. Ça veut dire qu'ils étaient expulsés et qu'ils ne pourraient plus jamais revenir en métropole. C'est ça être banni. Et quand Dieu nous demande de bannir quelque chose, c'est qu'il faut l'expulser de notre cœur et de faire en sorte qu'il ne revienne jamais. Voilà, bannis l'inquiétude, bannis le chagrin de ton cœur. Dieu sait que nous sommes affligés, il y a des choses qui nous affligent, oui ou non. Ce matin, en écoutant les infos, il y avait un des responsables de la SNCF qui disait, suite à un train qui a été bloqué pendant des heures à cause d'un suicide, que ce week-end, il y a eu 12 personnes qui se sont suicidées sur les chemins de fer en France. 12 personnes. 12. C'est impressionnant. Mais ce n'est que le début. Parce que vous savez ce qui est écrit, on en parlait avec le frère tout à l'heure, il est dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses qui surviendront sur la terre. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est ça que nous voyons, parce que les gens sans Dieu n'ont aucune espérance. Je lisais tout à l'heure le livre de Job, je vous le lis, Job chapitre 11. Pour les méchants, pas de refuge, la mort, voilà leur espérance. Ah bien sûr qu'ils doivent tomber de haut après avoir passé à l'acte et se retrouver dans les bras de l'ennemi. Vous le savez que c'est écrit. Hein? Job chapitre 8, l'impie n'a pas d'assurance, son soutien est une toile d'araignée. Voilà comment Dieu explique l'espérance des païens. Une toile d'araignée. Vous n'êtes jamais descendu dans une cave une toile d'araignée pour vous soutenir? Laissez-moi vous dire que ça ne va pas faire grand-chose. Mais voilà ce que Dieu dit, que le soutien des païens est semblable à une toile d'araignée. Ça ne peut pas vous supporter. Et voilà ce qui se passe. Le monde a raison. Le monde a raison d'être désespéré. Le monde est dans la frayeur, dans l'angoisse. Oui, la terre sera remplie d'angoisse. On n'a pas voulu de Jésus-Christ et je peux vous dire que le monde, il va le payer cher. de ne pas avoir voulu de la paix, de ne pas avoir voulu du pardon, de ne pas avoir voulu de la prédication de la croix, le monde est en train de le payer très cher. Mais ceux qui ont accepté le sang du Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, peuvent s'attendre à faire la même expérience que cette femme et croire que Dieu pourvoira. La chanson le disait dans les chants, il n'a pas pourvu depuis le début. Il a pourvu depuis le début. Eh bien, il pourvoira jusqu'à la fin, et après la fin, et dans l'éternité. Vous vous inquiétez pour ce que vous mangerez dans l'éternité? Pour les vêtements blancs que Dieu a préparés? Ça vous préoccupe? Est-ce que l'éternité, ça vous préoccupe? Non, parce que vous savez que tout dépendra de Dieu, ça sera facile. Mais ne vous préoccupez pas. Écoutez cette parole de l'Écriture, ne crains pas. Vous voulez vivre un miracle avec Dieu? Je ne parle pas souvent des miracles et des bénédictions matérielles. Je n'en parle pas régulièrement. Mais quand même, nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu qui bénit matériellement. C'est vrai que ce qui est important, c'est le salut, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Si vous n'êtes pas sauvé, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, peut-être que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous. Ces 10 Italiens qui se sont levés ce matin de bonne heure à 6 heures pour aller travailler, certaines ne savaient pas que quelques minutes après, ils seraient dans l'éternité avec ou sans Dieu. J'en sais rien. Combien ont regardé les informations à midi et ont vu que 10 Italiens étaient morts dans un tremblement de terre et certains ont déjà été rejoints. Croyez-moi. Pourquoi? Parce que la vie ne nous appartient pas. Et si vous n'êtes pas sauvés, repentez-vous, convertissez-vous, acceptez Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Mais ce Dieu qui s'occupe de notre éternité, qui veut nous sauver pour l'éternité, sur la terre, il veut aussi vous montrer qu'il pourvoira. Et ça, c'est important. Mais ça se passera avec une obéissance de cœur. Car cette femme, elle a obéi. Elle ne s'est pas mise en colère contre « qu'est-ce qu'il me veut cet homme ?»« Voilà, moi je suis en train de préparer mon dernier repas, et un homme qui vient me demander à boire, mais qui dégage ?» Attention, Dieu peut vous éprouver. Dieu peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui vous demandera un peu d'aide. Même si vous n'avez pas beaucoup, je ne sais pas dans quel domaine, mais dans le domaine spirituel comme dans le domaine matériel. Est-ce que ça peut arriver? Oui, soyez sensibles. Ne dites pas, j'ai plus rien, j'ai pas, qu'est-ce que tu veux que je témoigne, j'ai perdu la paix. Vous en avez quand même un petit peu. Eh bien, donnez-la. Parce que les gens du monde, ils n'ont rien du tout. Cette femme, elle n'avait pas grand-chose, elle avait un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de farine. Et ça représente les chrétiens qui, malgré le fait qu'ils peuvent être spirituellement pauvres, ils auront toujours un peu de quelque chose, parce que Jésus a dit qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Il n'a pas dit ça? Donc nous aurons toujours un peu de lumière dans notre cœur, et si demain quelqu'un vous demande un peu de lumière, donnez-la lui. Vous entendez? Si quelqu'un vous demande demain un peu de paix, peut-être quelqu'un va vous appeler au téléphone. Est-ce que ça fait du bien des fois d'appeler quelqu'un? Ça fait du bien? On a besoin, parce que la Bible dit heureux, ce qui procure la paix. Ça commence comme ça. Dieu a testé cette femme. Donne-moi un peu d'eau. Elle est partie, elle est revenue. Et puis quand il lui donne de l'eau, et bien maintenant tu vas me donner un peu de pain. Et bien, mais il aurait pu dire, mais de quoi je me mêle? Mais de quoi il se mêle ce gars? C'est comme ça que les gens feraient. Et bien cette femme, elle dit, voilà, je n'ai pas grand-chose. Et puis Dieu va aller beaucoup plus loin. Au-delà d'une attitude de foi que cet homme lui demande de continuer à avoir, il lui dit « rentre ». Vous avez vu le deuxième conseil? C'est ça. Rentre. Il y a des mots, vous connaissez ce que Jésus a dit? Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Cache-toi quelques instants. Ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'il est dit « entre dans ta chambre, cache-toi pour quelques instants ». Ça ne vaut pas la peine de s'enfermer dans le lieu secret? Ça valait la peine que cette femme, elle rentre dans sa maison de nouveau? Pourtant, elle avait rien. Qu'est-ce qu'elle allait faire avec le rien qu'elle avait? Ça paraît ridicule. Mais quand Dieu dit « rentre », si le Seigneur Jésus vous dit ce soir « mais rentre dans ta chambre ». Rentre dans ta chambre, enferme-toi dans le lieu secret. Mais j'ai rien, Seigneur, j'ai pas grand-chose. Rentre dans le lieu secret. Enferme-toi dans ta chambre, enferme-toi quelques instants. Et tu sais pas, ces quelques minutes, ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure, ce que ça peut produire quand Jésus a dit que dans le lieu secret, notre Père nous le rendrait. Ne crains pas, rentre et prépare-moi d'abord. Voilà, ça c'est une des clés pour que l'huile ne diminue pas, pour que la farine ne diminue pas. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu soit toujours en premier dans votre vie? Parce que l'ordre d'Élie, la proposition d'Élie, paraît être vraiment difficile, et on pourrait dire, mais cet homme, il est vraiment insensible. Non, cette femme, elle est en train de dire qu'elle n'a rien, elle a juste de quoi préparer un repas et elle va mourir. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Il dit, prépare-moi d'abord un gâteau pour moi. Ah, franchement, qu'est-ce que c'est cette affaire? Comment vous l'interprétez ça? Comment vous le réagiriez? Vous réagiriez, vous? Vous n'avez rien, il vous reste 500 grammes de farine. C'est tout ce qu'il vous reste. Parce que des fois, on dit, on n'a pas grand-chose, mais on a dans la cantine, on a dans le... C'est pas vrai? Hein, on a dans l'armoire, on a dans le congélateur, c'est pas vrai? Bon, on a de quoi s'acheter en plus. Mais là, imaginez-vous, vous êtes à la maison, demain, vous n'avez rien. Vous avez un gobelet d'huile, vous voyez, comme ça là, vous avez ça d'huile, hein, et vous avez un bol de farine. Et moi j'arrive et je vous dis, écoutez, vous me préparez un gâteau pour Isabelle, il y a Esther, il y a Jonathan, il y a Steven, il y a Lucas il mange beaucoup. Alors vous me préparez un gâteau pour toute la famille. Qu'est-ce que vous diriez? Que Dieu nous garde de vivre une expérience peut-être pareille, mais est-ce que Dieu peut nous éprouver? C'est ça surtout que je veux dire. Alors, soyons intelligents. Et quand Dieu, de toute façon, que l'on soit dans l'abondance, parce que ça aussi, que l'on soit dans l'abondance ou que l'on soit dans la difficulté, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quelles que soient les bénédictions, Dieu vous a-t-il béni? Auriez-vous des moyens, des finances? Si Dieu vous donne toutes choses, c'est vrai, la Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Dieu peut nous donner pour qu'on puisse donner aux autres également. Mais mes frères et sœurs, que cette parole soit sérieuse dans votre cœur, ne craignez rien. Ne craignez pas le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Aimez rentrer chez vous, dans votre maison, et vous enfermer dans la présence de Dieu. Ne faites pas comme ces chrétiens qui disent « Oui, mais moi je prie, mais ça ne sert à rien. Je ne sais même pas si Dieu m'entend. » Est-ce que c'est sérieux ça? Vous voyez cette femme, je l'imagine, quand on chantait là, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur », je pense que le soir de ce jour, elle devait chanter, je pense. Je l'imagine, je ne sais pas, prier, là en train de ramasser ses petits morceaux de bois pour faire son dernier repas. Peut-être elle priait. Est-ce que vous pensez qu'elle pouvait prier?
Oui.
Moi, je le crois. Vous vous rendez compte? Dans la famine, pendant la famine, Dieu n'a pas été vers une veuve en Israël. Il faut le redire. Dieu n'a même pas été vers quelqu'un de son peuple parce qu'il ne croyait pas. Ce qui vous montre que Dieu honore toujours la foi. Et que même dans une église, dans une religion officielle, dans une dénomination nationale, qu'importe, Dieu regarde à la foi. Et dans un quartier du Mirail, ou dans un quartier chic de Toulouse, qu'importe, si quelqu'un fait agir sa foi, Dieu va le bénir. Que le gars soit pauvre ou qu'il soit riche, ça n'a aucune incidence, ça. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ne craignez pas. Partez, partez avec cette assurance que vous n'avez rien à craindre. Vous entendez? Ne craignez pas, n'ayez pas peur du lendemain. Soyez fidèles, enfermez-vous dans votre bureau, dans votre salon, entrez dans sa présence et dites, Seigneur, oui, je vais d'abord te servir, je vais faire ce que tu me demandes. Peut-être que ce sera un gâteau à une mamie qui est toute seule, peut-être, je ne sais pas. Le Seigneur peut vous mettre des choses à cœur, oui ou non? Eh bien, faites-le. Ça, c'est une petite chose. Est-ce que ça valait la peine qu'elle le fasse? Parce que vous savez, elle aurait pu l'envoyer balader, comme je vous disais tout à l'heure. Elle serait passée à côté d'une expérience extraordinaire. Mais cette femme, elle a cédé. Et quand vous lisez la Bible, et quand vous lisez ses promesses, croyez-les. Vous le croyez que les âmes intègres sont rassasiées au jour de la famine? Vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, dans le psaume 37. Vous le croyez que ceux qui le craignent, ils ne manqueront de rien pendant la famine? Je ne sais pas ce qui va se passer en France. Je ne sais pas ce que la crise va engendrer encore. On n'en sait rien. Mais écoutez, ne dépendez pas de ces choses. Dépendez de ce Dieu vivant. Parce que Dieu le voit. Si on dépend des hommes ou si on dépend de lui. Parce que le Seigneur l'a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dans le peuple d'Israël, ils étaient au temple, ils étaient dans les synagogues, et ils priaient, et ils récitaient des prières, et quand la famine est venue, ils sont passés à côté. Et combien de gens passent à côté parce qu'ils font de belles prières, ils peuvent chanter le juste et rassasié. On l'a chanté là ce soir. Le lion, eh bien, il tire la langue, et le juste, enfin, c'est pas ça, mais enfin, c'est presque ça qu'on a chanté. Hein, le lion, il connaît la disette, et le juste, il est rassasié. Mais le juste, c'est le croyant qui ne dépend pas des hommes, c'est le croyant qui dépend de Dieu. Et si vous dépendez de Dieu, c'est comme ça, Dieu pourvoira, parce que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Moi, j'entends des fois les chrétiens. Il y a un chrétien qui me disait à Gap que dans son église, les élections présidentielles ont provoqué une division et des disputes entre chrétiens. Vous vous rendez compte? La piété. J'aurais été malheureux si j'avais vu ça dans l'église. Moi, j'aurais été affligé si j'avais vu des chrétiens s'attraper parce que moi, je suis plus de tel côté, moi, je suis plus de l'autre. Mais voilà ce qui se passe quand on compte sur les hommes. Heureux êtes-vous si vous faites ce qu'il faut au niveau de votre vie sociale, mais j'espère que vous dépendez de Dieu. De tout votre cœur que vous dépendez de Dieu. Maudit soit l'homme qui dépend de l'homme, qui se confie en la chair. Cette femme, elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Aujourd'hui, ça serait une Libanaise. Eh bien, voyez, elle a été bénie. Vous vous rendez compte de l'expérience qu'elle a faite? Elle avait de l'huile toujours dans le vase. Certains priaient tout à l'heure, avant que vous arriviez, certains. Certains priaient, oh, que nos vases soient toujours remplis d'huile. Que nous soyons comme ces vierges sages qui aient de l'huile en réserve. Et moi, je dis amen. Parce que lorsqu'on se tient devant Dieu, notre vase, il se remplit. Il ne se vide pas. Lorsque des chrétiens fréquentent les réunions et que leurs cœurs sont ouverts, comme vous ce soir, vous êtes venus devant Dieu chercher la pensée de Dieu. Votre vase ne se videra pas. Vous entendez, mes frères et sœurs, si vous poursuivez votre vie spirituelle avec sérieux, comme c'est certainement le cas ce soir, vous ne vous en rendez pas compte, mais en écoutant la parole de Dieu, en priant, en louant, votre vase se remplit et vous ne manquerez pas d'huile, vous ne manquerez pas de farine. Mes frères et sœurs, ne craignez rien. Vous entendez? Vous avez dit, Seigneur, parle-nous ce soir, parle-nous. Peut-être que vous attendiez une très très grande révélation. Eh bien moi je vais vous dire, ça tient en trois mots, ne craignez rien. Ne craignez pas, repartez avec cette assurance que Dieu y prend soin. Oui, le juste, il est rassasié, il ne souffre pas de la famine. Pendant la famine, y aurait-il une famine matérielle qui viendrait toucher notre pays? Moi je vous dis que les justes seront rassasiés. Alléluia, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, qu'il pourvoira à tous nos besoins. Seulement rentrez, faites ce que Dieu vous demande. Il va vous le demander au travers de son esprit, ça sera peut-être plus facile si ça vient directement de Dieu, parce qu'on est d'accord quand Dieu nous parle directement. Si c'est par une prophétie, ça ira encore bien. Mais Dieu peut vous parler au travers d'un pasteur, oui ou non? Dieu peut vous parler au travers d'un ancien, d'un frère, d'une circonstance, faites-le. Si Dieu vous dit, prépare-moi d'abord, si ce soir vous réentendez, ah c'est vrai que je fais mon culte le matin, c'est vrai, je crois que je mets Dieu d'abord en premier, mais ça ne va pas. Je sens bien que je me tranquillise ma conscience parce que je prends une demi-heure le matin, mais toute la journée, Dieu n'est pas avec moi. Alors, réapprends à ce que Dieu soit vraiment en premier dans ta vie. C'est important, frères et sœurs, c'est important. Que Dieu ne soit pas dans votre vie que la première heure du jour, que Dieu soit dans votre vie toute la journée et toute la nuit. Ne soyez pas comme ces païens qui ont pour soutien une toile d'araignée. Ça fait pitié quand on lit ça, hein? Ça fait pitié. Oui, on le voit, il n'y a pas que cette étrangère qui a été bénie. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une syrophénicienne? Il n'y a pas un officier de l'armée romaine? Il ne faisait pas partie du peuple de Dieu? Et je ne sais pas de quelle nation vous êtes, ça n'a aucune importance. Est-ce que c'est important ça? Hein? Si on questionnait toutes les nationalités représentées dans l'Église, je suis sûr qu'il y en a au moins une quarantaine. D'ici, hein? Ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre cœur. La preuve, vous l'avez ce soir, les croyants du temps de Jésus ont été remplis de colère. Ça vous remplirait de colère que Dieu bénisse un inconverti? Ça vous remplirait de quoi? De justice, vous direz, ben Dieu est juste. Moi j'ai une foi de pacotille, ben c'est normal. Le païen là-bas, il a entendu une parole de Dieu, il l'a saisi, il le croit, il a été béni, et bien, je suis rempli de reconnaissance. Parce que je vérifie une fois de plus que Dieu est juste. Alléluia. Hein. Bannissez l'inquiétude. Rentrez chez vous, attendez, rentrez chez vous et louez le Seigneur de tout votre cœur. Faites ce que Dieu vous demande et l'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas. Allez, on le relit le dernier verset quand même. Allez, on le relit quand même. On ne peut pas ne pas le lire. 1 Roi chapitre 17, verset 16. Allez, on va lire le verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, c'est bien de lire. Vous vous réjouissez pas de lire ça? Moi, je me régale. Elle eut de quoi manger, elle et toute seule elle, c'est ça? Et sa famille. Aussi bien qu'Élie, tiens, tout le monde est béni. Vous avez vu, quand quelqu'un est béni, les autres, ils sont bénis avec. Vous avez envie de bénir les autres avec? Et c'est bien. Ça, vous savez, Dieu a entendu, amen. Vous savez, quand on dit amen, le Seigneur, il entend. Eh bien, Dieu le voit, il dit, tiens, ils ont dit amen. Ils veulent pas la bénédiction que pour eux. Ils veulent aussi la donner aux autres. Hein? Dieu l'a entendu. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Alléluia. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Alléluia. Selon, bien sûr, la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cette parole, elle est dans le Nouveau Testament. Ne touche pas à l'huile et au vin. On ferme les yeux et on ressort tous de cette église remplis d'assurance que Dieu pourvoira. Ce n'est pas le nouveau ministre de l'économie qui nous intéresse avec des promesses. Nous, notre ministre, on n'en a qu'un. Hein. Vous le savez, c'est le Seigneur. C'est lui qui dirige notre vie. Alors répondez à cette prédication et sachez que si vous reproduisez la foi de cette femme, la soumission de cette femme, vous verrez la réalisation de cette promesse, on l'a lu dans les proverbes, dans les psaumes, oui, le juste est rassasié pendant les temps de la famine. On l'a chanté. Mais voyez, c'est bien quand même de le renforcer par une petite prédication. Seigneur Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour la délicatesse avec laquelle tu sais exactement et comment et quand pourvoir à tous nos besoins. Il n'y a que toi, toi qui as dit que pas un oiseau ne tomberait sans qu'il ne soit, cela soit déterminé par ta souveraineté. Alors Seigneur, si tu nous as même gardés avant que nous te connaissions, mais Seigneur, nous croyons, oui, que tu nous garderas jusqu'à la fin et dans l'éternité et dans les nouveaux cieux. Oui, Jésus, comme cette femme, nous décidons et nous choisissons de te faire confiance. Oui, nous sommes de ton peuple et si tu bénis des inconvertis parce qu'ils ont mis leur foi en toi, eh bien, merci Seigneur. Si nous voulons être remplis de reconnaissance parce que oui, tu sais vers qui aller ce soir, oh, viens dans cette église et manifeste ta vie comme toi seul es capable de le faire. Que ton nom soit béni. Pendant quelques instants, louons le Seigneur. Restons les yeux fermés et louons les Seigneurs. On pourrait rechanter « Je louerai l'Éternel ». Cette femme, elle a dû louer le Seigneur. Vous croyez qu'elle a dû le louer? Vous croyez qu'elle s'est endormie comme les autres soirs? Elle a dû le louer de tout son cœur, le Seigneur. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Seigneur, j'avais besoin de cette prédication ce soir. Tu m'as parlé. Eh bien, mon cœur, il va s'ouvrir. Et tu vas remplir mon vase. Et tu vas remplir mon pot. Tu vas remplir mon être. Et tu vas même remplir mon frigidaire. Vous croyez que Dieu peut remplir le frigo de quelqu'un? Vous croyez que Dieu peut remplir le congélateur de quelqu'un? Mais mon frère, ma sœur, tout appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Alors s'il bénit des étrangers qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous dire qu'il bénira ses enfants remplis de reconnaissance. Soyons remplis de reconnaissance et louons l'Éternel.